VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition du jeudi 7 mai 2015. À la une ce soir.
Au Burundi, 4 personnes ont été tuées dans la manifestation contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza.
L'Union africaine exhorte les responsables burundais à reporter le scrutin présidentiel dû à la situation sécuritaire.
Accusation de viol de militaires français sur les mineurs en Centrafrique, Paris ouvre une enquête.
Et Yémen, les États-Unis et l'Arabie Saoudite préconisent une trêve de plusieurs jours pour faciliter l'aide humanitaire.
En Grande-Bretagne, conservateurs et travaillistes se disent confiants par rapport aux élections de ce jeudi. Ben, un gouvernement de coalition pourrait être nécessaire selon les sondages.
Israël, Benjamin Netanyahou forme un nouveau gouvernement de coalition, mais les perspectives de paix dans la région restent pour le moins incertaines.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Nous ouvrons au Burundi où 4 personnes ont été tuées aujourd'hui, dont une dans la commune de Gisozi. C'est le premier décès hors de la capitale, Bujumbura, secouée depuis plusieurs jours par les manifestations contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Idriss Fall a joint sur place notre confrère Léon Massengo de la radio Mbonesha.
Les manifestations contre la 3e candidature de Pierre Nkurunziza ont continué. Ce jeudi, 4 personnes sont mortes. 2 personnes dans la commune urbaine de Cibitoki, dans le nord de la capitale Bujumbura, emportées par les explosions de grenades selon les témoins et la police. 7 personnes ont été grièvement blessées au cours de ces explosions. Une personne est morte dans une scène de justice populaire à Nyakabiga, soupçonnée d'être un jeune Imbonerakure du parti au pouvoir. Ce jeune a été lancé, puis tué dans une pluie de jets de pierre avant d'être brûlé en pleine journée. 4 ministres se sont déplacés pour appeler au calme, à l'apaisement dans la province de Moaro. Un élève de 16 ans est mort tué par des balles tirées par un policier lors d'une manifestation. Plusieurs routes étaient bloquées ce jeudi dans les quartiers de la capitale Bujumbura. 2 véhicules ont été brûlés parce que les chauffeurs n'ont pas obéi à leurs ordres.
Notre confrère Léon Massengo de la radio Mbonesha.
Sachez aussi que la présidente de la Commission de l'Union africaine, Kosazana Dlamini Zuma, s'est prononcée aujourd'hui en faveur du report de la présidentielle au Burundi. Elle a déclaré à Addis Abeba que l'Union africaine n'enverra pas d'observateurs au Burundi pour le vote du 26 juin. Au moins 13 personnes sont mortes depuis le début des protestations le 26 avril, le jour où Pierre Nkurunziza a annoncé son intention de briguer un 3e mandat.
Les manifestations de l'opposition ont encore dégénéré en Guinée, à Conakry, la capitale. Heurts entre forces de l'ordre et des jeunes protestants contre le calendrier électoral, dit l'AFP. Ces violences interviennent alors qu'une rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition guinéenne, l'ex-premier ministre Sélou d'Alain Diallo, est prévue demain. Malgré l'annonce de ce premier tête-à-tête politique en 3 ans, l'opposition a maintenu ses appels à manifester.
Retour au calme à Cotonou, au Bénin, suite aux manifestations d'hier. Une 20aine de personnes ont cependant été interpellées lors d'affrontements entre la police et des manifestants proches de l'opposition. Et c'est ce qu'affirment leurs avocats et des sources policières citées par l'AFP. La manifestation avait été interdite par les autorités, mais des centaines de manifestants étaient quand même descendus dans les rues du centre-ville. Un important contingent de forces de l'ordre qui les attendait, a fait usage de gaz lacrymogène et reçu des jets de pierre en retour. L'opposition a promis de nouvelles actions dans les jours à venir.
Accusation de viol de militaires français sur des mineurs en Centrafrique. La justice française s'accélère. Ce jeudi, le procureur de la République à Paris a annoncé que des juges d'instruction allaient enquêter sur cette affaire. Nicolas Pinault.
Oui, le procureur François Molin explique que l'information judiciaire a été ouverte pour viol sur mineur par personne abusant de l'autorité conférée par leur fonction et complicité de ce crime. Dans cette affaire, 14 militaires français sont mis en cause. 3 ont déjà été identifiés par les témoignages de 6 enfants centrafricains âgés entre 9 et 13 ans au moment des faits. Ces militaires français faisaient partie de la force Sangaris déployée à l'aéroport Mpoko de Bangui. C'est la 2e fois que le parquet de Paris s'intéresse à cette affaire. Après avoir été saisi par le ministère français de la Défense, Le parquet avait ouvert une première enquête préliminaire fin juillet 2014. Aucun enfant ni aucun militaire mis en cause n'avait été entendu. Dans son communiqué, le parquet explique qu'il a d'abord voulu entendre la fonctionnaire de l'ONU, rédactrice du rapport, mais que la demande de levée d'immunité nécessaire à cette audition a été refusée par les Nations Unies. La fonctionnaire onusienne a finalement répondu par écrit et cette réponse est arrivée le 29 avril, selon le parquet.
Côte d'Ivoire, le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ex-chef de milice Charles Blé Goudé s'ouvrira le 10 novembre, a annoncé aujourd'hui la Cour pénale internationale. Ils sont accusés de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Dans le même temps, l'organisation Amnesty International dénonce les conditions d'arrestation et de détention de trois cadres du parti en crise de l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo. Les trois responsables interpellés, les ex-ministres Sébastien Dano Djedjé et Hubert Houlaï, ainsi que Justin Kouah, un responsable de la jeunesse du parti pro-Gbagbo, ont été placés mardi sous mandat de dépôt. Un signal préoccupant à quelques mois de l'élection présidentielle, estime Amnesty International.
En Méditerranée, la marine italienne dit avoir repéré l'épave du chalutier à bord duquel plus de 700 migrants ont trouvé la mort le mois dernier. Le bateau a été localisé au nord des côtes libyennes.
Les évêques du Mali en visite au Vatican, le pape François salue l'engagement commun des chrétiens et des musulmans pour la sauvegarde des trésors culturels du pays confrontés à la poussée djihadiste.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et l'Arabie Saoudite préconisent une trêve de plusieurs jours au Yémen pour faciliter la distribution de l'aide humanitaire. Bagassi Koura nous en dit plus.
Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue saoudien Abdel Al-Jubier ont indiqué que les efforts étaient en cours pour mettre en place un cessez-le-feu de 5 jours au Yémen afin de pouvoir acheminer l'aide humanitaire. Ce cessez-le-feu serait renouvelable en fonction des conditions sur le terrain, ont-ils précisé. Pour John Kerry, la trêve dépend largement de son acceptation par les rebelles
houthis.
Nous exhortons les houthis et ceux qui les soutiennent, à qui nous suggérons d'utiliser toute leur influence, de ne pas manquer cette importante opportunité de répondre aux besoins de la communauté yéménite et de trouver une solution pacifique au Yémen. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a reconnu qu'il n'y avait pas encore eu de contact avec les houthis pour savoir s'ils accepteraient le cessez-le-feu.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé un nouveau gouvernement de coalition. Le cabinet a été annoncé mercredi soir après un accord de dernière minute avec l'extrême droite, juste avant l'échéance de minuit. Félix Yepassi-Zemrou.
La formation du nouveau gouvernement intervient après 7 semaines de négociations. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a été désigné pour former le gouvernement après que son parti, le Likoud, eut défait aux élections de mars l'alliance de l'opposition menée par le Parti travailliste. Le chef de file des travaillistes, Isaac Herzog, avait déjà dit qu'il ne ferait pas partie de la nouvelle coalition. Le nouveau gouvernement s'appuie sur une marge majoritaire d'un seul siège au Parlement avec 61 députés. Monsieur Netanyahou avait espéré former une grande coalition, mais son ancien allié de droite, le ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a fait faux bond lors des négociations. En conséquence, M. Netanyahou a été obligé de s'allier avec les partis religieux ultra-orthodoxes et l'aile dure du parti Israël, notre nation, de l'ancien ministre de l'économie, Naftali Bennett, qui préconise l'expansion des colonies juives et l'annexion de la Cisjordanie palestinienne. Le nouveau gouvernement suscite peu d'espoir quant à une relance du processus de paix au Moyen-Orient. Celui-ci est au point mort depuis l'effondrement, il y a un an, de négociations parrainées par les États-Unis et la guerre de 50 jours entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. La campagne électorale en Israël avait surtout porté sur les questions intérieures telles que la hausse du coût de la vie et l'écart croissant entre riches et pauvres.
Réaction ici à Washington, le président Barack Obama a félicité le peuple israélien, le Premier ministre Netanyahou et la nouvelle coalition pour la formation de ce nouveau gouvernement, dit la Maison-Blanche dans un communiqué.
Le Sénat américain devait voter aujourd'hui pour obliger le président Barack Obama à soumettre tout éventuel accord nucléaire avec l'Iran au Congrès cet été. Un vote de procédure, mais capital, est prévu vers 18h GMT. L'adoption finale pourrait se faire aujourd'hui également. Un vote similaire est prévu la semaine prochaine à la Chambre basse. Entre-temps, Téhéran et les puissances mondiales s'apprêtent à reprendre leur pourparlers mardi prochain.
Arrestation en Turquie de 5 personnes soupçonnées d'avoir participé l'an dernier à la livraison illégale d'armes à la Syrie. Un procureur et 3 adjoints de la région d'Adana dans le sud du pays ont été arrêtés et ont comparu devant un tribunal local. Un ancien colonel a également été arrêté du fait de son rang de plus haut gradé de la région, indique l'AFP, citant l'agence turque Anatolia.
La collecte clandestine de données téléphoniques des Américains est illégale, allant bien au-delà de l'autorisation votée par le Congrès. C'est le verdict rendu aujourd'hui par une cour d'appel fédérale à New York. La décision des 3 juges fait suite à un procès intenté par l'American Civil Liberties Union contre la NSA, l'Agence nationale de sécurité, concernant la collecte de plusieurs millions de données, telles que des numéros de téléphone privés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec Félix Yepassi Zembro.
Les prix des principales denrées ont poursuivi leur tendance à la baisse en avril, enregistrant un recul de 19% sur un an. Et la FAO estime que la facture alimentaire mondiale devrait atteindre son plus bas niveau en 5 ans. Dans son rapport semestriel sur les marchés alimentaires mondiaux, publié ce jeudi et cité par l'agence France Presse, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation explique cette situation particulièrement favorable par des stocks exceptionnellement abondants après plusieurs bonnes années de récoltes successives. Les cours du pétrole ont ouvert en petite baisse jeudi à New York, les investisseurs prenant quelques bénéfices au lendemain de l'annonce d'une baisse des réserves américaines de brut et face à une actualité réduite. Une allusion au fait que sur le plan international, on n'a pas reçu de nouvelles particulièrement mauvaises du Moyen-Orient, du moins pas pire que d'habitude, selon un expert cité par l'agence France-Presse. La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell a déclaré jeudi l'état de force majeure sur ses exportations de pétrole brut en provenance du Nigeria, suite à la détection de fuites importantes sur un de ses oléoducs, celui de Forcados dans le sud. Avec une capacité de 400 000 barils par jour, cet oléoduc est un des plus productifs du pays, selon l'agence France-Presse. Shell a dénoncé les vols à répétition de pétrole et le sabotage de ses principaux oléoducs, source majeure de fuite et de pollution dans la région de production du pétrole.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Félix.
Un résumé de l'actualité sportive avec Bagassi Koura. Bonsoir.
Oui, bonsoir, cher Ruben. Bonsoir à tous.
Parlons de la fin des demi-finales allées de la Ligue des Champions en Europe.
Oui, hier soir, le FC Barcelone a pris sa revanche en humiliant le Bayern Munich 3-0, un doublé de Messi à la 77e et 80e minute. Et à la toute dernière minute, Neymar a marqué le but du chaos. Autant dire que le retour en Bavière s'annonce très compliqué pour les Allemands.
Et la FIFA a publié aujourd'hui la nouvelle édition de son classement mondial.
Et toujours en tête dans la zone Afrique, l'Algérie, 20e plus 1, retrouve le top 20, 3 rangs devant la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique.
Tennis, demi-finale du tournoi de Madrid.
Oui, Svetlana Kuznetsova s'est qualifiée pour les demi-finales après un véritable marathon remporté jeudi contre la Tchèque Lucy Safarova, 14e mondial en 3 matchs, 5-7, 7-6, 7-6. Kuznetsova, qui avait déjà dû renverser la situation la veille contre l'Australienne Samantha Stosur, 5-7, 6-2, 7-6, a sauvé 2 balles de match à 5-4 dans le 3e set conclu après 3 heures 5 minutes de jeu.
Basketball, demi-finale du championnat nord-américain de basket.
Oui, en demi-finale du championnat nord-américain donc de basketball, toute la soirée, hein, les Cavaliers de Cleveland, dirigés par LeBron James, ont largement devancé les Bulls de Chicago, venaient détonnant donc 106 à 91 à la fin du match. Quant à Houston Rockets, ils ont donc gagné 115 à 109 face aux Los Angeles Clippers.
Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorcil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour.
Au Burundi, la capitale, Bujumbura, est secouée depuis plusieurs jours par des manifestations contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Le président burundais est sorti hier de son silence pour dire que sa candidature a obtenu le feu vert de la Cour constitutionnelle, on le sait, et il appelle les acteurs politiques à venir préparer les élections. Pour une réaction, Idriss Fall a joint à Bujumbura Pacifique Ninina Hazoué du mouvement Halte au troisième mandat.
Pour nous, le président Nkurunziza, hier, s'est félicité d'avoir pu terroriser les juges de la Cour constitutionnelle. Vous savez, un jour avant, le vice-président de la Cour constitutionnelle avait annoncé qu'on les avait menacés de mort s'ils ne décidaient pas d'autoriser la candidature du président Nkurunziza. Son discours était un non-événement. Donc pour nous, cela ne change rien. Nous continuons notre contestation jusqu'à ce qu'ils comprennent que le troisième mandat est impossible.
Et la médiation, les quatre ministres des Affaires étrangères qui sont passés là?
Moi-même, je n'ai pas pu participer, mais il est clair que nos collègues qui étaient là ont fait savoir que nous n'allons pas accepter que le président piétine notre constitution et l'accord d'Arusha. Je pense que la communauté internationale est consciente de cette situation. Les Burundais ne vont pas vendre leur dignité jusque parce que nous sommes en face d'un homme qui peut brandir sa menace et sa terreur.
La Cour constitutionnelle, pour légitimer la candidature, avance un argument disant que son premier mandat n'était pas élu au suffrage universel direct.
C'est un non-sens. C'est d'ailleurs un argument qui était déjà avancé par le président Nkurunziza. Nous avons deux articles de la Constitution du Burundi qui parlent du mandat présidentiel. L'article 96 qui dit que le président est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et l'article 302 qui dit qu'au premier mandat après la transition, le président était élu par les deux chambres du Parlement. Or, l'accord d'Arusha est aussi clair et dit que, quel que soit le mode d'élection, le président ne peut avoir plus de deux mandats. Le principe de deux mandats ne change pas par l'article 302, c'est juste la modalité d'élection du premier président qui change. Pour nous, les deux mandats sont tous des mandats, c'est juste les modalités d'élection qui avaient changé.
Et les manifestations, comment ça s'est passé aujourd'hui?
Comme le reste des 9 jours, nous avons eu un bon nombre de manifestants dans différents quartiers de Bujumbura, mais aussi à l'intérieur du pays. Je dois aussi malheureusement regretter que dans certaines situations, dans certains quartiers, nous avons connu notamment Nyakabiga, un citoyen qui a été brûlé vif. Je pense que c'est une provocation de plus et un piège tendu aux manifestants. Et nos manifestants qui subissent depuis plusieurs jours des actes de provocation, des jets de grenades, manifestants sur lesquels on tire à balles réelles, sont arrivés à une situation où ils se sentent extrêmement en danger. Et visiblement, les autorités burundaises devaient jouer sur cette colère pour provoquer des actes de violence.
On écoutait Pacifique Ninina Hazoué du mouvement Halte au troisième mandat au Burundi.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
En Guinée, des heurts ont opposé aujourd'hui à Conakry les forces de l'ordre et des jeunes manifestants appelant à l'appel de l'opposition contre le calendrier électoral.
Alors il faut dire, Morgane, que ces violences interviennent à la veille de la rencontre prévue demain entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition, le chef de l'UFDG, l'ex-premier ministre, Seloud Alain Diallo.
Une rencontre incertaine selon l'opposant, jouant aujourd'hui par VOA Afrique. Il affirme que les forces de police encerclent sa maison, l'empêchent de sortir de chez lui. Le domicile de l'opposant Sidya Touré est également cerné par les forces de l'ordre. Nicolas Pinault a joint Sélioune Hélène Diallo.
Avant-hier, lorsque j'ai reçu l'invitation, je me réjouissais plutôt pour pouvoir le rencontrer et discuter justement des divergences qui nous opposent, non seulement par rapport au processus électoral, mais par rapport à certaines questions relatives à sa gouvernance. Mais compte tenu de la séquestration dont j'ai été l'objet aujourd'hui, ma famille, moi et mes collaborateurs, et comme les autres leaders de l'opposition, comme Sidya Touré, vraiment, je me pose la question sur l'opportunité de répondre à cette invitation. Ce n'est pas un bon signal. On ne peut pas inviter le chef de file de l'opposition et le faire séquestrer. Mais ceci dit, j'étais prêt à aller exposer ma lecture de la crise et aussi les solutions qui peuvent nous aider à sortir de cette crise. Pourquoi il y a un conflit, il y a des divergences aujourd'hui? C'est parce que la loi a été violée par M. le Président et par la CENI. Parce que les accords politiques ont été violés.
Est-ce que cette invitation, c'est aussi, selon vous, une première victoire, la pression de la rue qui fonctionne?
Ce n'est pas parce que M. Alpha Condé a décidé de me recevoir qu'il faut dire qu'il a changé. Parce que c'est un homme qui a toujours privilégié la violence et qui n'a jamais privilégié le dialogue et la concertation. S'il n'y a pas la bonne foi, s'il n'y a pas une volonté politique de sortir de la crise, d'ouvrir un dialogue sincère, eh bien, on risque de rester dans le statu quo. J'espère qu'il va avoir l'ouverture nécessaire pour que nous puissions revenir à la normalité, respecter les anciens accords et vraiment aller à des élections apaisées et inclusives.
Et la priorité pour vous, c'est vraiment l'inversion du calendrier électoral avec la tenue des élections locales avant la présidentielle du 11 octobre 2015 ?
Oui, c'est une revendication, parce que ce calendrier viole la Constitution, viole le Code des collectivités, viole surtout les accords politiques qui ont été signés sous les auspices de la communauté internationale.
Si le calendrier électoral est inversé, seriez-vous prêt à un report de la présidentielle pour 2016?
Oui, absolument. Techniquement, on n'a pas besoin de prolonger le mandat présidentiel jusqu'à 2016. On peut peut-être l'organiser au mois de décembre, s'il y a lieu, même pas. On peut, avec un renforcement des capacités de la CENI, on peut organiser les élections communales avant le 11 octobre. Mais si, pour des raisons techniques ou financières, on peut accepter que le mandat, que le premier tour ait plutôt lieu dans la première quinzaine du mois de décembre, le 10 décembre par exemple, ou même le 5 décembre, pourquoi pas. Les communales aient lieu le 11 octobre par exemple, mais on peut faire les communales avant octobre, toutes les conditions se réunissent si la volonté politique est là.
Le chef de l'opposition, Sélioune Hélène Diallo.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Le Liberia en passe d'arriver à bout de l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. Ce pays, qui espère être déclaré libre du virus Ebola dans 2 jours, donc samedi, a élaboré un plan de relance de son économie. Les précisions de Jean-Roger Bian.
Faisant remarquer que son pays n'a pas enregistré de nouveaux cas ces derniers temps, le ministre libérien du Commerce et de l'Industrie, Axel Hadi, a dit que la ligne d'arrivée est proche.
So May 9th is our magic date.
Ainsi donc, le 9 mai est notre date magique. S'il n'y a pas de nouveaux cas, et je pense qu'il n'y en aura pas, nous aurons atteint la date butoir. Certains centres de traitement ont été fermés et d'autres sont en train de l'être, a-t-il expliqué. Conscient que le virus Ebola pourrait réapparaître, le gouvernement a mis en place un système de gestion pour faire face à toute urgence, a indiqué Axel Hadi. Cela inclut la mise en place de l'infrastructure médicale appropriée, le traçage de tous les cas potentiels et la surveillance de la situation aux frontières, a expliqué le ministre libérien du Commerce et de l'Industrie. En plus de la nécessité de renforcer son système de santé et de protéger ses citoyens contre une nouvelle épidémie, le Libéria est aussi confronté à l'immense tâche de relance de son économie. Avant que l'Ebola ne réduise tout à néant, le pays projetait un taux de croissance du PIB entre 5,9% et 7%. Avec les ravages de la crise sanitaire, ce taux s'est retrouvé en dessous d'1%. Selon le ministre d'État sans portefeuille Augustin Jarrett, l'Ebola a eu un effet de cascade sur tous les aspects de l'économie nationale, en particulier en ce qui concerne les principales exportations du pays, à savoir le caoutchouc et le minerai de fer. Des compagnies ont fermé, coûtant à des milliers de personnes leurs emplois. Les champs n'ont pas été cultivés, privant des milliers d'agriculteurs de leurs sources de revenus. Le pays doit diversifier son économie, a dit M. Jarrett, ajoutant que le gouvernement entend désormais accorder la priorité au secteur privé. Ce que nous avons vu depuis plusieurs décennies, c'est que la plupart des travailleurs étaient employés dans le secteur public et cela va changer. Nous nous focaliserons sur le secteur privé, les emplois et les investissements du secteur privé et tenterons d'orienter l'économie dans une direction où les acteurs du secteur privé seront les moteurs de la croissance et de la vitalité économique, a déclaré le ministre d'État libérien Augustin Jarrett. Le gouvernement libérien a su travailler avec ardeur à attirer les investissements privés pour aider à reconstruire les infrastructures, notamment à relancer les grands chantiers routiers et autres projets de construction à l'arrêt du fait de l'épidémie d'Ebola. Le secteur agricole qui emploie 70% de la force de travail au Libéria nécessite de grands investissements, estiment les autorités libériennes.
Le sommet des chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, s'est achevé ce mercredi dans la capitale gabonaise. Et décision clé de ce sommet, la suppression des visas et l'instauration de la libre circulation des ressortissants de la zone CEMAC, à savoir le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine. Bagassi Koura joint à Libreville Jean-Valentin Leyama, professeur de finance à l'université Omar Bongo. Il explique d'abord pourquoi cette mesure n'a pas été prise des années plus tôt.
Entraîné parce que il y a en Afrique centrale un certain nombre de pays de faible démographie comme le Gabon et la Guinée équatoriale. Il y avait des craintes d'un envahissement de la part de certains pays de la CEMAC qui sont des pays à forte démographie. Donc, ils craignent un envahissement.
Est-ce à dire que des pays comme le Gabon n'ont plus de crainte d'être envahis, comme vous dites?
Non, la crainte existe toujours, mais nous sommes dans une communauté. La libre circulation, elle est inscrite dans les règles de la communauté. Mais la libre circulation ne veut pas dire la libre installation aussi. À la différence, justement, de la communauté européenne.
Un Camerounais peut aller à Libreville, mais il ne peut pas travailler au Gabon.
Un Camerounais peut venir à Libreville. Il peut venir au Gabon. La loi gabonaise dit que lorsque vous êtes ressortissant étranger, il faudrait qu'au bout de 6 mois, il faudrait que vous puissiez obtenir une carte de séjour, vous faire établir une carte de séjour. Et la question de la libre circulation donc va être réglée maintenant par les législations nationales. C'est-à-dire que le pays souverainement peut procéder à un certain nombre de contrôles et tout pour vérifier si X, Y sont... Il y a en règle. Et qu'est-ce donc, deux choses différentes qu'il faut différencier, ouais. La circulation et l'installation.
Et qu'est-ce que cette nouvelle mesure de suppression des visas peut apporter sur le plan économique pour la zone communautaire?
Je vous dis, par exemple, au Gabon ici. Les Gabonais partent d'ici pour aller acheter cette marchandise, les marchandises qui sont vendues dans ce marché mondial pour venir le vendre au Gabon. Mais ça va contribuer naturellement à la dynamisation des échanges économiques.
Jean-Valentin Leyama, professeur de finance à l'université Omar Bongo. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Au Burundi, 4 personnes ont été tuées aujourd'hui, dont une dans la commune de Gisozi. C'est le premier décès hors de la capitale depuis le début des manifestations contre le 3e mandat pour Pierre Nkurunziza.
L'Union africaine exhorte les responsables burundais à reporter le scrutin présidentiel dû à la situation sécuritaire.
Heure à Conakry, capitale de la Guinée, entre forces de l'ordre et jeunes protestants contre le calendrier électoral. C'est arrivé la veille d'une rencontre prévue entre le président Alpha Condé et le chef de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo.
Retour au calme à Cotonou, au Bénin, suite aux manifestations d'hier. Une vingtaine de personnes ont cependant été interpellées lors d'affrontements entre la police et des manifestants proches de l'opposition. C'est ce qu'affirment leurs avocats et des sources policières.
Accusation de viol de militaires français sur des mineurs en Centrafrique, la justice française ouvre une enquête. Voilà, cette édition touche à sa fin. Nous remercions Alvin, qui était en charge de la production ce soir, assisté de Tian Wang, qui ne me sourit pas. Merci quand même, Tian. Et à la présentation, Morgan Guériac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.